ces mystérieux individus au micro de Radio G. Il y a deux semaines, vous avez pu découvrir le métier de l'ombre de Mélissa, qui consiste à étudier le comportement de nos fidèles compagnons, les chiens, et de nous apprendre à les éduquer comme il se doit. Elle doit également, à travers ce portrait, quelques astuces si vous souhaitez franchir le pas d'avoir un chien à la maison. Je vous invite donc à retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G et sur Spotify. En ce samedi 11 avril et sur le stand de Radio G de la Angers Geek Fest, nous allons explorer le monde de la pop culture à travers le parcours bien rempli de cette héroïne de l'ombre. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Radio G, ici à la Angers Geek Fest, une véritable couteau suisse de la pop culture, car elle est journaliste spécialisée en bande dessinée, manga, jeux vidéo, mais aussi autrice de romans de science-fiction et d'aventures fantastiques, mais encore autrice d'essais sur la pop culture, et ce n'est pas tout, car elle enseigne également l'histoire de l'art et du jeu vidéo, et anime des conférences et des podcasts. Phew! Ça fait beaucoup, hein, Bénédicte. Et oui, c'est Bénédicte Coudière que j'ai le plaisir de recevoir ici. Comment ça va, Bénédicte ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah, très bien, ma foi. Bénédicte, nous allons passer donc une petite heure ensemble pour découvrir qui tu es, ton parcours et comment tu arrives quotidiennement à faire tous ces métiers en même temps, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de boulot. C'est encore un gros mystère pour nous, en tout cas. Et nous découvrirons par quelles études tu es passé pour ensuite avoir ces nombreux travails, expériences professionnelles, tout en gardant la ligne d'horizon de la pop culture et la volonté de transmettre. Puis enfin, je te demanderai deux petits morceaux de musique qui rythment ton quotidien.
Tout à fait.
T'es prête ? On est parti ?
Je suis prête.
Bien. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire d'où tu viens ?
Alors, moi c'est Bénédicte, je suis beaucoup de choses, comme tu l'as dit dans l'introduction. Je viens de Paris, enfin de région parisienne à l'origine. J'ai vécu plusieurs années, enfin une quinzaine d'années à Bordeaux, et actuellement je suis en Bretagne et en pays de la Loire, dirons-nous.
Oui, pays de la Loire, c'est ça, mais pourquoi ce choix d'ailleurs, peut-être plus judicieux, Nantes plutôt qu'Angers ?
Parce que j'avais mes amis qui étaient là-bas, et parce que l'avantage de faire autant de métiers et autant de types de métiers, c'est que je peux à peu près tous les faire chez moi. Mmh. Et aussi que bah, quand je donne des conférences ou des tables rondes, on s'en fout un peu de où j'habite, tant que je peux me déplacer facilement vers les endroits qui m'appellent.
Exactement.
Donc du coup, Nantes ou ailleurs, tout me va, et j'ai beaucoup d'amis dans le coin, donc je me suis rapprochée de mes amis.
Les amis, c'est important.
Exactement.
Bien, alors tu es ici pour parler de ton profil de l'ombre en soi.
Oui.
Mais tu as une véritable multicasquette, j'ai envie de dire.
Tout à fait, je suis un couteau suisse.
Exactement.
Voilà.
Et donc du coup, comment on peut décrire tes métiers si tu devais en donner une définition rapide de chacun d'entre eux, quelle serait-elle ?
Alors, tous mes métiers sont liés en réalité par la pop culture d'un côté et par l'envie de transmettre et de faire découvrir de l'autre. Dans un premier temps, si je dois me présenter, alors ça dépend de l'événement, on va pas se mentir, hein, ça dépend du lieu, ça dépend à qui je parle, mais globalement, si je me présentais l'intégralité, alors il y aura jamais l'intégralité, sinon on y est encore dans 2 heures,
oui.
Si je présentais une grande partie de mes casquettes, je vous dirais que je suis journaliste, spécialisée en BD, manga et jeux vidéo, mm-hmm. Que c'est un métier qui consiste, alors pour ma part, à récupérer des livres et des jeux, à les lire et à y jouer, et à vous donner un avis sur comment ça se passe, etc., mais aussi à analyser en profondeur, à faire des liens vers autre chose, puisque l'avantage d'avoir plusieurs casquettes, c'est que je peux analyser, par exemple, des jeux vidéo à l'aune des codes de la bande dessinée, ou faire des liens avec le monde de l'imaginaire, etc. Ça a été le cas récemment dans un article que j'ai publié sur un site internet qui s'appelle Point and Think, et qui fait en fait un espèce de grand état des lieux de la figure de la maison dans l'imaginaire, avec le lien avec le jeu Blueprints. Si vous y avez pas joué, il est trop bien, allez-y.
Recommandation discrète.
Exactement, recommandation très discrète. Faut être plutôt doué en anglais par contre pour vraiment maîtriser le jeu. Mais voilà, et ça me permet de faire plein de liens. Et ça me permet aussi d'enrichir un autre de mes métiers qui est d'être prof d'histoire du jeu vidéo, histoire et culture du jeu vidéo dans des écoles de jeux vidéo, puisque bah, c'est important quand on est formé à un futur métier de connaître l'écosystème, de savoir un petit peu dans quelle dynamique on se place, dans quelle histoire on se place, ce qui existe, d'où ça vient, comment on en est arrivé là, etc.
Et tu enseignes où ?
Alors j'enseigne à Bordeaux.
À Bordeaux, d'accord.
Dans une école qui s'appelle 3IS, 3IS Bordeaux, et ça se passe super bien. Mes étudiants, s'ils m'écoutent, je les embrasse, ils sont trop cool, et c'est toujours un plaisir d'aller les voir.
Et c'est super ça. Donc du coup, on a donné deux métiers.
Exactement.
Journaliste et prof d'histoire du jeu vidéo. Est-ce qu'il y en a un troisième ?
Très connecté à prof d'histoire du jeu vidéo, tout simplement parce que je me retrouve face à des gens, c'est le métier de conférencière ou de modératrice de table ronde. Alors là, c'est deux choses un peu différentes, mais conférencière, c'est un peu le one-man show où on va expliquer plein de trucs.
C'est ça.
Alors que modératrice de table ronde, c'est ce que tu es en train de faire avec moi actuellement.
Exactement.
N'est-ce pas ?
Voilà.
Avec une ou plusieurs personnes, distribuer la parole, orienter les discussions vers plein de questions ou de choses qui ont été potentiellement discutées en amont, n'est-ce pas ? Etc. Et toujours avec cette idée de transmettre, de faire parler les gens. Du coup, là, c'est moi qui parle. Ça me change.
Non, mais c'est vrai que j'ai remarqué cette volonté de transmettre en étudiant un petit peu ton parcours pour préparer cette interview. Mais comment on en vient à faire autant de métiers comme ça ?
Alors, si on est totalement réaliste, il n'y en a aucun qui paye assez pour payer le loyer.
C'est pour ça.
Alors, non, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que ça me passionne. Parce que ça me passionne et parce qu'en réalité, même si on a l'impression que beaucoup de choses sont déconnectées, parce que mon autre métier qu'on n'a pas encore parlé, c'est autrice.
Exact.
De romans, de fantasy, de nouvelles et d'essais sur la pop culture. Et en réalité, tout est connecté par l'envie de partager des trucs, l'envie de transmettre, l'envie de vous raconter des histoires et de vous les faire découvrir, des histoires qui sont parfois très connues, qui sont parfois méconnues, de vous faire découvrir des livres, des BD, des jeux qui sont potentiellement passés sous le radar parce qu'il y a énormément de choses qui sortent. Mmh. Et j'ai toujours envie, en fait, de partager des trucs.
Ouais.
Et je me suis dit, quitte à avoir envie de partager des trucs, quitte à être douée avec le fait d'écrire, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, autant essayer d'en faire le plus possible.
Exactement, mais totalement.
Sachant que, en effet, factuellement, je suis indépendante et il y a les aléas de la société font que aucun de ces métiers n'est très très bien payé ou payé de façon suffisamment régulière pour payer le loyer, donc autant en faire plein.
Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, ce que je remarque aussi, c'est, comme tu dis et tu le répètes, cette envie de transmission. Qu'est-ce qui t'a inculqué ça ? Si on remonte un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a un lien peut-être avec le métier que la petite Bénédicte rêvait de faire ?
Alors la petite Bénédicte rêvait d'être archéologue.
Ah oui ?
Oui. La petite Bénédicte rêvait d'être archéologue et elle s'est heurtée à la réalité. Qui est une réalité physique, hein, je n'ai absolument pas les capacités physiques pour rester assise à gratter le sol, clairement.
Voilà. Après, on reste quand même malgré tout lié à l'histoire.
Ah oui, non mais moi j'ai fait histoire et histoire de l'art en études, on y reviendra tout à l'heure, mais ça a toujours été un truc qui me passionne. La mythologie, je suis passionnée de mythologie depuis que je suis toute petite, donc l'archéologie c'était assez logique. Je me suis heurtée à plusieurs réalités, qui étaient la réalité du terrain où physiquement je n'en suis pas capable, hein, clairement. Et je me suis heurtée aussi au fait que c'est un milieu qui est pas mal fermé, où il y a encore moins de débouchés que tous mes autres métiers. Donc bon, voilà.
Et celui-là, on ne peut pas le faire par intermittence?
Non,
celui-là,
alors on le fait par intermittence selon les chantiers, etc. Mais enfin voilà. Et je me suis aussi heurtée au fait que... Enfin, je ne me suis pas heurtée au fait. Disons que quand on fait des études à la fac, on fait à l'époque où je l'ai fait, hein, parce que ça a peut-être changé aujourd'hui, c'était une licence histoire de l'art et archéologie. Les deux sont liés, en réalité, au moins la première année, si ce n'est au moins jusqu'à la fin de la licence, où on a encore un peu les deux. Et j'adore l'histoire de l'art.
Oui.
Voilà, j'adore l'histoire de l'art. Et je me suis dit, quand il a fallu se spécialiser dans l'un ou dans l'autre, je me suis dit, faut être réaliste deux secondes. Physiquement, je ne suis pas capable d'être archéologue, même si j'adore ça. Dans l'histoire de l'art, il y a l'étude de l'art antique. c'est trop cool.
Oui.
C'est pas pareil, mais c'est presque pareil. Y aurait la possibilité de travailler dans des musées, parce que moi, c'est ce que je voulais aussi. Donc, fonçons en histoire de l'art. Et donc, j'ai laissé de côté, même si je l'ai jamais réellement abandonné, le métier d'archéologue. Et en fait, je me suis heurtée à une autre réalité qui a été de faire de la recherche. J'ai un master recherche en histoire de l'art.
Oui, on va y revenir tout à l'heure.
Et le problème de la recherche, c'est que j'adore les livres. Mais passer mon temps dans une bibliothèque en étant toute seule avec les bouquins le reste de ma vie, c'était pas vraiment ma passion.
Ouais, je comprends.
Et je préférais le côté aller parler de mes recherches aux gens.
Oui.
Aller parler de ce que j'avais découvert aux gens. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres métiers qui étaient plus en accord avec ça que le fait de faire de la recherche. Alors ça m'empêche pas de faire de la recherche sur mon temps libre et de me plonger dans plein de livres et d'essayer de découvrir plein de trucs.
Bien sûr.
Mais je ne le fais pas de façon universitaire.
Et d'ailleurs, d'où vient cette attirance pour la pop culture ?
Alors j'ai grandi dedans.
Oui.
Voilà.
Ça vient
Je suis une enfant des années 90.
C'est ça.
Hein, je suis née en 89. J'ai vécu toutes les années 90. J'ai eu les... Enfin, alors j'ai pas eu les premières consoles, mais j'ai eu quasiment toute ma vie des consoles de jeux. Au niveau des romans, j'ai découvert les romans de science-fiction et de fantasy très tôt. Très 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 tôt. Trop tôt en vrai pour ce que je lisais par rapport à mon âge, ce qui a donné des scènes absolument magiques quand j'allais acheter des livres. Hein. Mais globalement, je suis tombée dedans et j'ai fait bah c'est cool.
Oui.
Je me suis jamais posé la question Je m'en suis jamais posé la question en vrai.
Il y a peut-être. Un don de tes parents, ta famille ou ton entourage pour ça justement, non ?
Absolument pas.
Non, pas forcément.
Non. Ma passion de l'histoire de l'art et de certains peintres vient de ma mère, clairement. Ma passion pour mon attrait pour la BD, etc., vient aussi de mes parents, etc. Mais après, reste de la pop culture et moi
tu
et moi-même.
L'as fait toute seule.
Et j'ai découvert des trucs. Et à l'époque, quand j'étais gamine, on faisait beaucoup les brocantes. En fait, et j'avais découvert. On avait acheté, mais pour rien, une NES avec ou une Super NES, je sais plus, avec un sac entier de jeux. On l'a branché à la console, qui est très bien.
Ouais, mais c'est comme ça que ça a commencé un petit peu.
J'avais déjà une Game Boy, la toute première, à la maison, et j'y jouais avec mon grand-père.
Ah oui, c'est peu commun ça.
C'est ça. On partageait ça avec mon grand-père. Les premiers jeux Mario, j'ai joué avec mon grand-père.
C'est
et j'ai appris l'anglais avec un jeu d'ailleurs.
Pour beaucoup, c'est le cas, ouais.
Non, mais alors, il y avait un jeu qui s'appelait Bugs Bunny Crazy Castle, le 2. Et on s'est rendu compte que les mots de passe pour accéder au niveau, parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque, les mots de passe pour accéder au niveau étaient forcément des mots en anglais de 4 ou de 5 lettres.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, quand j'ai eu le jeu, on a fait le dictionnaire. Français-anglais en cherchant les mots de 4 ou de 5 lettres pour trouver des niveaux.
Ah, d'accord.
Pour se balader. Et donc il y a une partie du vocabulaire anglais qui vient de cette époque.
Donc petite anecdote un petit peu croustillante de l'enfance de Bénédicte, c'est parfait ça.
Voilà.
En tout cas, on va découvrir dans quelques instants par quel parcours tu es passé pour exercer tous ces métiers avec passion. Mais avant cela, je te propose une première petite pause musicale. Et comme dans chaque émission des métiers de l'ombre, j'aime demander à mes invités les musiques qui bercent leur quotidien. Toi, Bénédicte, si je te disais, quelle musique te fait vibrer dès le matin pour te motiver un petit peu ?
Alors, il y en a une du jeu vidéo et il y en a une d'une scène métal que j'aime beaucoup. Il y a Old Friend jeu Transistor qui est absolument magnifique. Le jeu aussi, d'ailleurs. Et si vous voulez un peu de peps le matin, parce que Old Friend est très belle, mais plutôt douce comme musique, et si vous voulez vous réveiller en fanfare, il y a un groupe de musique métal que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonata Arctica, et dont l'une de mes musiques préférées, c'est Full Moon.
Ok. Et bien, tout de suite, on écoute pour le moment, en tout cas, Old Friends, la BO de Transistor.
Très bien.
De retour dans les métiers de l'ombre, vous nous écoutez sur Radio G 101.5 FM et je suis avec Bénédicte qui est journaliste, autrice, conférencière et plein d'autres choses encore que nous allons apprendre tout de suite. Mais d'abord, nous allons parler de ton parcours d'études. Oui. Alors,
du coup, tout aussi chaotique que le reste. Hein,
ouais. Ah bah, ça promet, dis donc.
Oui.
Non mais franchement, en vrai, quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, il y a quand même de la matière. Et donc, c'est tout de suite ce que nous allons aborder. Et dans un premier temps, tu as fait un master de l'histoire de l'art.
Oui, tout à fait. J'ai fait plusieurs masters.
Pardon,
c'est moi qui m'entendais plus. Pardon. J'ai fait plusieurs masters. En vrai, j'ai un parcours qui est un peu chaotique dans le sens où j'ai fait plein d'études différentes.
Oui.
Qui se regroupent toujours sous l'œil de la transmission et de la culture.
Oui, c'est
ça reste. Mais globalement, en fait, j'ai fait une double licence. Mmh. Histoire et histoire de l'art.
Okay.
Qui est une double licence un peu spéciale, mais ça je l'ai appris à la fin de mes études à Paris. Et après j'ai fait un master recherche en histoire de l'art.
D'accord.
C'est là où je me suis rendu compte que définitivement moi j'avais besoin de parler à des gens.
Oui.
Et pas que à des livres, même si j'adore les livres. Et par contre je supporte mal la poussière. Et suite à ce premier master, je me suis donc rendu compte que la recherche, parce que le premier master était un master recherche, je me suis rendu compte que la recherche de cette façon-là n'était pas pour moi. Et je me suis réorientée vers un master professionnel qui à l'époque s'appelait HPMS, qui est Histoire, Médiation, Histoire, Philosophie et Médiation des Sciences.
Oui, alors ça, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un grand terme pour un...
C'est ça, qui aujourd'hui a un autre nom qu'on ne dira pas, mais qui reste la même chose.
Ok.
Oui, parce que maintenant, il s'appelle IMST.
Ah oui, dis donc. Ils n'ont pas trop fait de recherche, justement, sur le nom.
Voilà, donc ça restera toujours dans nos cœurs, le master HPMS. Hein, voilà.
Ouais. Et donc, du coup... pourquoi avoir fait ce choix de vouloir refaire un autre master? Il te manquait quelque chose?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est très bête, hein, mais globalement, quand je me suis retrouvée à la fin de mon master, je me suis retrouvée à me dire, ok, j'ai les capacités, j'ai les compétences, je bosse à côté de mes études, etc. J'ai les compétences pour bosser dans le milieu que j'aime. Mmh. J'ai les compétences pour bosser dans les musées, pour bosser dans le journalisme, pour faire plein de trucs en fait différents. Et je me suis un petit peu heurtée au fait que, à l'époque, un peu moins maintenant, hein, mine de rien, mais je sais pas dans quelle mesure mes expériences professionnelles ont joué, mais à l'époque, j'arrivais pas à trouver du taf parce que, master recherche en histoire de l'art.
Oui, master, j'ai envie de dire un taf spécifique suite à tes études, c'est ça que tu veux dire?
Oui, chercher du boulot en vrai, parce que à un moment donné, les tafs étudiants, ça va bien deux minutes, mais quand t'es plus étudiant, il faut payer le loyer, hein, on en revient là. Et globalement, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas envie de rester enfermée dans un taf spécifique, historien de l'art ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse, mais je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup d'activités différentes pour ne pas m'ennuyer, parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie vite.
D'accord.
Et c'est même pas une question d'ennui, c'est une question de plus l'activité est redondante, plus je vais la faire mécaniquement et moins je vais y trouver du fun.
C'est pour ça que tu enchaînes plusieurs expériences?
C'est pour ça que j'enchaîne plusieurs expériences, c'est pour ça que j'enchaîne des expériences dans des domaines variés et c'est pour ça que actuellement j'ai 4 métiers. Mm-hmm. On pourra en rajouter quelques-uns, mais actuellement j'ai 4 métiers, j'ai plusieurs activités j'alterne les unes avec les autres en fonction de j'aime pas la monotonie. J'aime pas ça, je la supporte mal. Donc,
je vois ça, hein, parce que j'ai vu que tu avais été guide dans la ville de Bordeaux, par exemple. Tu as été guide dans les musées de sciences.
J'ai fait ça un peu, ouais.
Voilà. Mais du coup, tu quittes pas des yeux forcément l'envie de raconter des histoires et de transmettre.
Hein. Exactement.
Donc du coup, ça a toujours été en toi.
J'ai même fait 2 ans en tant que game master dans les
Exactement.
Escape rooms.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais.
Oui, parce que raconter des histoires, c'est cool. Enfermer des gens et les regarder galérer, c'est cool aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Mais il y a un petit côté, par contre...
voilà. Il y a un petit côté où c'est plaisant, hein, de regarder les gens galérer, on va pas se mentir.
C'est vrai qu'on avait déjà reçu un Game Master d'Escape Game dans... dans les métiers de l'ombre et il avait eu quelques petites anecdotes croustillantes.
Hein. Ah, il y en a toujours. Il y en a toujours parce qu'au bout d'un certain temps, les gens, ils oublient qu'ils sont observés. Et pour des raisons de sécurité, on est obligé de les observer, en vrai. Surtout quand les portes sont réellement verrouillées, parce qu'il y a certaines salles où les portes ne sont pas réellement verrouillées, la porte de sortie, parce que pour des raisons mécaniques, de sécurité ou quoi que ce soit. Mais quand les portes sont réellement verrouillées, tu es obligé de les regarder. Et les gens oublient au bout d'un moment.
Effectivement. Et puis enfin, tu ouvres les portes du journalisme.
Oui.
Et en étant non pas guide de musée, mais guide d'achat pour la rédaction de La Vie des Bulles.
De La Vie des Bulles. Alors, La Vie des Bulles, L'AVIS, histoire de faire un petit jeu de mots, qui est un magazine qui existe depuis 96, si ma mémoire des chiffres n'est pas trop mauvaise, et qui est alors un magazine professionnel à destination des bibliothèques et des médiathèques francophones.
Ah oui, d'accord, c'est pas tout public le magazine.
Non. En gros, l'idée, c'est que chaque mois, on chronique... Alors, pas tout ce qui sort, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent, mais une très grosse partie de la production, de façon à aider les bibliothèques et les médiathèques à faire leur choix dans tout ce qui sort, tout simplement parce que les bibliothèques et les médiathèques n'ont pas nécessairement le temps de lire tous les ouvrages qui sortent, qu'il y a globalement des bibliothèques qui ont la même personne qui est spécialisée dans les romans et dans les BD, adultes ou tel rayon, et donc du coup, ils ont encore moins le temps de tout lire.
Oui.
Et il y a aussi le truc, à La Vie des Bulles, on aime bien aussi faire des focus sur des petites ou des micro maisons d'édition qui publient des ouvrages qui sont exceptionnels, mais qui n'ont pas la force de com' d'un Dargaud, Casterman et compagnie.
Ah, je comprends.
Par exemple, je vous encourage très fort à aller voir les ouvrages des éditions Ça et Là, qui sont très très cool.
Édition Ça et Là.
Ça et Là. C'est dit A, plus loin E, plus loin
ah oui,
là,
ouais.
Voilà. Ou encore des éditions La Ville Brûle, qui font des ouvrages jeunesse comme adultes qui sont top.
Ok, ouais.
Par exemple.
Et aussi, tu passes par Comic Strip.
Oui, je chronique aussi pour Comic Strip, qui là est un site internet grand public, donc là c'est pour tout le monde, où je chronique différents ouvrages. Là aujourd'hui, au moment où on enregistre, j'ai un article sur un manga qui s'appelle L'Héritière du Dragon, qui vient de sortir, dont le premier tome est sorti là le mois dernier, et qui est très chouette aussi.
Ok, ouais. Et puis après tout ça, il en reste encore du chemin.
Toujours.
Car tu deviens donc enseignante, conférencière, autrice.
Oui.
D'ailleurs, autrice. Comment on devient autrice et
par hasard, comme tout le reste, hein. Parce qu'en réalité, si on regarde comment j'ai commencé à faire la plupart de mes métiers, la réponse c'est par hasard.
Ah oui.
En me retrouvant au bon endroit au bon moment et en répondant oui à certaines questions où j'étais pas sûre de que ce soit un oui.
L'exemple parfait, comme quoi il ne faut pas se démotiver à trouver la passion dans son métier.
C'est ça. Et en fait, on devient autrice parce que moi, j'avais envie de raconter des histoires. J'ai toujours écrit. J'ai toujours essayé de raconter des histoires.
Mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, un enseignement, une formation pour savoir écrire, rédiger, etc.
Alors, pour savoir écrire en journalisme, il y a des formations en France. Il y a des écoles de journalisme. Pour savoir rédiger des discours, il y a des formations pour rédiger des discours. Parce que rédiger un discours pour l'oral, c'est pas du tout la même chose qu'écrire pour l'écrit. Parce qu'il y a une vocation d'être dit, déclamé, etc. Pour écrire pour des romans,
oui.
Et alors de la fantasy et de la science-fiction, tu te démerdes.
Ah oui.
Globalement, il y en a au Canada. Il y a des facs au Canada d'écriture créative, etc. Il y a peut-être quelques formations d'écriture créative à l'université, etc. Mais si ça existe, ça existe depuis pas si longtemps. Et donc j'avais déjà déterminé que j'arrêtais les études, j'en avais déjà eu beaucoup. Il existe des formations en ligne avec des auteurs et des autrices confirmés qui donnent des masterclass, etc.
Oui.
Il y a notamment une autrice qui s'appelle Cécile Duquesne qui a fait l'école d'écriture 2.0 qui vend des masterclass où elle invite des auteurs et des autrices à venir expliquer leur métier, à venir et t'expliquer comment faire du world building, etc. Mais globalement, c'est des formations que tu vas chercher par toi-même, etc. Écrire, ça demande du travail, et du travail que globalement on va faire, alors pas en partie seul, mais qui va être toi face à toi-même,
oui.
Qui va être le fait de continuer à écrire, de savoir recevoir les retours des gens à qui tu vas faire lire ton texte, Arrêtez de faire lire à votre famille, ils vont forcément être sympas avec vous.
Ben forcément, oui. Oui, mais quand même, je dirais que par ton parcours, t'as malgré tout des prédispositions. T'as, je pense, une manière, un savoir-faire sur l'écriture, etc.
Oui, mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé, les premières histoires que je racontais, c'est dans des cahiers que j'écrivais à l'école, quand j'étais petite. Et donc, du coup, je l'ai entraîné, ce savoir-faire, entre guillemets. Parce que faut arrêter de dire que l'écriture, c'est un talent. Il n'y a pas de question d'inné ou d'acquis. C'est un muscle, c'est... Il faut écrire pour pouvoir écrire. Il faut savoir se remettre en question parce que y a plein de choses qui font que. Il faut savoir écouter les retours des gens et il faut réussir à avoir aussi la curiosité de soumettre ses manuscrits.
Bien sûr.
Et si vous êtes intéressé par l'écriture de fantasy, de fantastique et de science-fiction, il y a un truc qui est extrêmement formateur qu'on appelle les appels à texte.
D'accord.
En gros, il y a pas mal de magazines. Alors, vous avez des sites internet qui recensent ces appels à texte. Vous avez des magazines, des anthologies, vous avez des festivals parfois qui lancent des appels à texte et qui sont des appels à nouvelles.
D'accord.
Alors, la nouvelle ne s'écrit pas de la même façon qu'un roman, c'est un autre exercice, etc. Mais ça reste des textes courts. Des textes courts sur lesquels les appels à texte vont mettre une contrainte, qui vont être un sujet, qui vont être par exemple frontières, qui vont être nature, qui vont être de la fantaisie animalière, qui vont être plein de sujets différents, et avec une contrainte de taille. C'est-à-dire, généralement, ça dépend des appels à texte, mais globalement, c'est pas plus de 50 000 signes. Mmh. J'y reviens après sur les signes. Et on va écrire sa nouvelle, on va la soumettre, et selon la taille de là où tu l'as soumis, tu vas peut-être avoir un retour.
Oui, oui. Okay.
Et ça va être une première expérience.
Eh bien, bien sûr, oui.
Et ça va être
ça ouvre aussi,
va être une première expérience à plein de niveaux, parce que ça t'ouvre potentiellement à la publication. Ça t'ouvre aussi potentiellement à des retours détaillés de la part des gens qui vont avoir lu ton texte. Autres que ta famille, qui sont des professionnels. Ça va potentiellement t'ouvrir des cercles d'auteurs et d'autrices, puisque si tu en parles sur les réseaux, tu vas te rendre compte qu'un tel est aussi en train d'écrire dessus. Ça va permettre aussi de nouer des amitiés. Ça va permettre de découvrir des forums sur lesquels... Oui, ça existe encore, les forums. Des forums sur lesquels tu vas pouvoir soumettre ton texte et avoir des retours de la part de gens qui écrivent aussi, etc. Et surtout, ça va te permettre d'apprendre à écrire sous la contrainte, qui est une contrainte de thème et qui est aussi une contrainte de taille. Alors, je parlais de 50 000 signes. Il faut savoir qu'en France, au niveau du métier de l'édition, on ne parle pas en pages.
Oui, les signes,
ça n'a aucun sens. On parle en signes espace comprise.
Oui.
Et comprise parce que le symbole, l'espace, le signe de typographie, c'est féminin. Alors qu'au Canada, méfiez-vous, on parle en mots.
Ah,
c'est
oui.
un rapport de x6 globalement. Donc méfiez-vous, lisez bien les consignes.
En tout cas, merci pour le tips.
Parce qu'il y a aussi des magazines francophones au Canada qui font des appels à texte et où, pour le coup, on peut totalement en envoyer aussi. Faites juste attention dans ce cas-là à bien regarder en combien ils demandent et en quelle unité de mesure ils demandent.
C'est dommage de faire une copie double à la place d'un roman.
C'est ça.